Le journal de Cléa Robert, bonsoir.
Bonsoir, le marché de Noël bat son plein au centre-ville de Neuchâtel. Depuis la semaine passée, les artisans y présentent leurs créations et parmi eux, Madeleine Moreau, une locloise de 70 ans, reportage dans ce journal. Le régime de Bachar al-Assad s'est effondré aujourd'hui. Le président syrien a quitté son pays ce matin alors que les rebelles opposants s'emparaient de la capitale. Une chute fulgurante qui a fait réagir la communauté internationale. Le HC La Chaux-de-Fonds veut changer de dynamique. Après deux défaites de suite, les abeilles accueillent en ce moment les Bellinzona Snakes en Swiss League de hockey sur glace. On revient sur ce match dans le point sport. Demain, une bise froide soufflera sur nos régions, accompagnée par des précipitations. Il fera au maximum de la journée 5 degrés sur le littoral et 0 degrés dans les montagnes neuchâteloises. Le marché de Noël s'est ouvert la semaine passée sur la place du Coq d'Inde à Neuchâtel. Les visiteurs peuvent y découvrir jusqu'au 23 décembre une quinzaine de petits chalets abritant des exposants. Le marché est également ponctué de 16h à 21h par de la musique et diverses animations. Au cœur des stands, Madeleine Moreau, une locloise de 70 ans et artisane qui sculpte le papier, se trouve tous les soirs derrière son comptoir. Elle a fabriqué tout ce qui se trouve sur son stand durant toute l'année. Nous sommes allés à sa rencontre, reportage.
Madeleine Moreau. Pour me présenter, je viens du Locle, je suis mariée et actuellement je suis à la retraite.
Tout ce que vous vendez sur votre stand, c'est vous-même qui le fabriquez.
Alors c'est moi-même qui le fabrique, tout à fait. Je passe 4-5 heures par jour durant toute l'année pour faire un seul et unique marché dans l'année.
Pourquoi vous avez choisi le marché de Noël pour venir ?
Parce que pour moi, Noël, c'est une fête extraordinaire et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de donner des moments d'émerveillement aux gens qui s'arrêtent, qui regardent, qui s'intéressent. Et c'est la rencontre avec les personnes. Pour moi, c'est très, très important.
Vous m'avez aussi parlé de l'artisanat, montrer l'artisanat. Pourquoi c'est important pour vous ?
Pour moi, c'est important, surtout au moment où on achète un petit peu tout et facilement en ligne, sans se poser la question d'où ça vient. Et je crois que notre monde aujourd'hui, il a besoin de trouver de la beauté et non pas des choses on achète, on jette. Et il n'y a pas le côté affectif qui nous rejoint à l'objet que l'on a acquis.
Vous pouvez retrouver Madeleine Moreau et son artisanat tous les soirs jusqu'au 23 décembre au marché de Noël à la place du Coq d'Inde à Neuchâtel. Il faut désengorger le secteur de la gare à Bienne. Dès lundi, les véhicules individuels motorisés n'auront plus le droit de traverser le quartier d'est en ouest et inversement, via la place de la gare ou via la place du Général Guizan. Une analyse a montré fin 2018 que le trafic y était trop important et manquait de sécurité. Le trafic va donc subir des changements à partir de la semaine prochaine. Les détails de Roger Racordon, responsable du département des infrastructures à la ville de Bienne.
Les conclusions ont une fois démontré qu'on a un déficit de sécurité à l'entour de la gare. On a aussi vu que la stabilité des transports publics est insuffisante. Les bus ont toujours plus de peine à accéder à l'heure à la gare. Et puis aussi au niveau des sécurités, il y a trop de flux qui se mélangent à côté des bus et les voitures et les cyclistes avec les piétons. Donc le système est presque plus gérable. On doit aussi mandater des sécuritas qui règlent le trafic aux heures de pointe. Donc c'est vraiment le dernier moyen pour garantir un peu un fonctionnement minimal. C'est pour ça que toutes ces mesures étaient évaluées, des fermetures complètes, tout ça, mais qui remplissent le mieux les objectifs. C'est la mesure qu'on prend maintenant de fermer le passage devant la gare et puis à la place de Guizan. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les mesures qu'on prend, elles ont été saluées fortement par les transports publics, que ce soit les VB de Bienne ou bien les cars postales. Ils sont contents de pouvoir maintenant accéder à la gare plus facilement et puis ça aide vraiment les chauffeurs qui étaient très stressés aux heures de pointe avec toutes les voitures et les piétons. Du coup, on est content que cette mobilité-là, on a pu améliorer surtout le service des transports publics.
Des marquages et panneaux seront mis en place dès lundi pour organiser la nouvelle gestion du secteur de la gare de Bienne. Le manque de logements provoque la grogne à Zurich. Près d'un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui dans la ville. La mobilisation intervient après que des habitants de plus de 100 logements des maisons Sugus ont vu leur bail résilié. Le propriétaire des trois immeubles veut le rénover de fond en comble. Les manifestants ont exigé l'annulation de cette mesure en dénonçant la spéculation sur les logements. Notre-Dame oublie sa peine et célèbre sa messe. La première cérémonie a eu lieu ce matin entre les murs de la cathédrale, inaugurée hier en grande pompe à Paris. 5 ans après l'incendie qui a marqué le monde entier, l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, a célébré une messe de plus de 2 heures. Environ 2500 personnes et une quarantaine de chefs d'État, dont le président français, y ont assisté. Une deuxième messe publique, cette fois-ci, sera donnée dans moins d'une demi-heure. Cette messe n'aura été qu'une petite parenthèse de repos pour Emmanuel Macron. Il est sous pression à la veille de nouvelles consultations politiques afin de nommer un nouveau Premier ministre. La présidente de l'Assemblée nationale lui a demandé de rapidement trouver un nouveau chef pour son gouvernement. Yael Braun-Pivet milite pour la création d'un bloc central élargi allant des Républicains aux Socialistes afin de retrouver une majorité au Parlement. Le régime syrien de Bachar el-Assad s'est effondré comme un château de cartes. Les rebelles islamistes ont pris aujourd'hui la capitale Damas après une offensive éclair de moins de 2 semaines. La Russie a confirmé en début d'après-midi que Bachar el-Assad avait fui la Syrie après avoir dirigé le pays pendant près de 25 ans. Le porte-parole du Kremlin a précisé que le président syrien avait démissionné de son poste et quitté la Syrie en donnant l'instruction de procéder à un transfert pacifique du pouvoir. Les réactions se sont multipliées cet après-midi à l'annonce de la fin du régime syrien. Manon Becker.
La chef de la diplomatie de l'Union européenne a salué comme positive la chute de Bachar al-Assad. Kaya Kallas a estimé que l'événement a montré la faiblesse des soutiens russes et iraniens du régime syrien. L'Ukraine a aussi salué ce dernier. Pour Kiev, les dictatures qui ont parié sur le président russe Vladimir Poutine sont vouées à la même fin, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le président français Emmanuel Macron s'est félicité que l'état de barbarie soit tombé en Syrie. Il a également souligné que la France resterait engagée pour la sécurité de tous dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé quant à lui d'un jour historique pour la Syrie. Il a également évoqué la chute d'un maillon central de l'axe du mal dirigé par l'Iran. La Turquie, qui a soutenu les rebelles islamistes syriens, a pris acte de l'effondrement du gouvernement. De son côté, le département fédéral des affaires étrangères a appelé toutes les parties à protéger les civils et à respecter le droit international humanitaire.
Merci Manon. Pour le moment, aucune information sur le lieu de fuite de Bachar el-Assad n'a été communiquée. Donald Trump menace de sortir de l'OTAN. Dans une interview diffusée aujourd'hui, le président américain élu a émis la possibilité que les États-Unis se retirent de l'Alliance Atlantique, à moins que les alliés ne contribuent davantage financièrement. Il a déclaré au micro de NBC News que les pays membres devaient payer leurs factures et traiter les États-Unis de manière juste.
RTN, il est 18h08.
Sport. Et le sport, c'est avec vous, Guillaume Joly, bonsoir.
Bonsoir Cléa.
Et place tout de suite à du hockey sur glace avec le HC La Chaux-de-Fonds qui doit se reprendre.
Oui, les abeilles veulent regoûter aux joies de la victoire. Après 2 défaites de suite face à Turgovie et Viège, le HCC accueille en ce moment les Bellinzona Snakes en Swiss League de hockey sur glace. Un match face à la Lanterne Rouge qui doit redonner confiance au HCC. Cette partie a commencé à 17h. Léonard Reichen, vous suivez cette partie pour nous. Et pour l'instant, le HC La Chaux-de-Fonds livre la marchandise.
Oui Guillaume, comme vous l'avez dit, encore 7-39 à jouer dans cette deuxième période. Le HCC avait annoncé la couleur marquée en premier pour parfaitement se relancer. Et cela a été fait. Il n'a fallu qu'un peu plus de 2 minutes dans cette partie pour que Sandre Holden trouve la faille à 5 contre 4 pour ouvrir le score et provoquer une pluie de peluches sur la glace. Le feu au patin, le HCC en plus a ensuite multiplié les entrées de zone dangereuses. Et c'est logiquement que Stéphane Ruxeger a inscrit le 2-0, le score actuel dans cette partie. Le HC La Chaux-de-Fonds donc appliqué après deux matchs où les occasions avaient été légion, mais où la finition faisait défaut. En face aujourd'hui, l'équipe tessinoise, souvent accrocheuse, ce soir ne se montre pas très dangereuse. C'est un peu mieux en cette deuxième période, mais pour l'instant, le HCC livre la marchandise et tient son rang, puisqu'il est toujours deuxième du classement, même s'il a laissé la tête de cette partie de ce championnat, pardon, au HC Bâle. Et puis, plus que l'aspect sportif, c'est la fête au Mélèze. C'est un match des familles. Comme dit tout à l'heure, une pluie de peluches s'est abattue sur la glace au premier but des Chaudefoniers. Ces peluches qui seront redistribuées par Caritas et le centre protestant aux enfants défavorisés devant une belle affluence à la patinoire des Mélèzes. Donc une soirée parfaitement lancée pour les Abeilles, à lui de poursuivre dans la même voie. Une partie bien entendu à suivre en direct et en intégralité après ce point sport.
Merci Léonard pour ces précisions. On vous retrouve donc après ce journal pour suivre la suite et la fin de ce match entre le HC, la Chaudefoy et Bellazone. Et oui, pourvu que ça dure. Et dans les autres matchs de la soirée en Swiss League, on joue également. Turgovie mène actuellement 4-2 face au Gidzeka Lions. Coire et Viège sont dos à dos, deux partout. Bâle, le leader, mène pour l'instant 3-1 sur la glace d'Olten. Et c'est toujours 0-0 entre Sierre et Winterthur. On joue aussi du côté de la National League ce soir. S'est imposé face à Lugano 2-1 après prolongation. Fribourg n'a fait qu'une bouchée d'Ajoie 5-0. Et puis un match est encore en cours. Genève et Rapperswil sont partis en prolongation. C'est 2 partout après le temps réglementaire. On quitte les patinoires pour les stades maintenant avec le Lausanne Sport qui rayonne en Super League de football. Les Vaudois ont écrasé Zurich 3-0 aujourd'hui pour s'offrir une 6e victoire de rang en championnat. Deux autres matchs sont encore en cours. Servette et Winterthur n'arrivent pas à se départager, c'est un partout actuellement. Et Saint-Gall mène 1-0 face à Bâle. Et puis on joue aussi du côté de la Challenge League de football en ce moment. Arrow domine pour l'instant le stade Lausanne-Ouchy 1-0 et Vaduz mène 2-1 sur la pelouse de Bellinzone. Et puis un match est déjà terminé en Challenge League. Étoile Carouge a pris la mesure de Schaffhouse 1-0 et revient à seulement 2 points du leader, le FC Thun. Loïc Berger dans le top 20 continental. Le Neuchâtelois a pris la 19e place des championnats d'Europe de cross-country des moins de 20 ans aujourd'hui. À Antalya en Turquie, Loïc Berger a couvert les 4800 mètres du parcours en 14 minutes 27 secondes. Il concède seulement 20 petites secondes au vainqueur néerlandais de l'épreuve, Niels Laros. Toujours en course à pied, Dominique Lobalou s'impose. Le champion d'Europe du 10 000 mètres a remporté pour la deuxième fois la course de l'escalade ce dimanche en vieille ville de Genève. Il l'a emporté en 20 minutes et 37 secondes, devançant d'un souffle son dauphin et dernier rival, le français Jimmy Crecier. Pour sa dernière course de l'escalade, le Genevois Tadesse Abraham, c'est lui classé 11e à 48 secondes des vainqueurs. Le ski suisse vise la passe de 3 après les victoires de Justin Murisier en descente vendredi et de Marco Odermatt en Super G hier. Les Helvètes espèrent jouer tout devant ce soir lors du géant de Coupe du Monde de Beaver Creek. Le premier départ a été donné il y a quelques instants à 18h et pour l'instant, c'est un Suisse qui est en tête. Thomas Tumler mène devant le Slovène Zan Kranjec de 56 centièmes. Loïc Meyer, le Neuchâtelois des Rémans, est lui 3e pour l'instant à 1 seconde 13 du leader. À noter que Marco Odermatt est lui 6e à 1 seconde 26 de la tête. Pas de nouveau trophée pour Belinda Bencic. La joueuse de tennis saint-galloise s'est inclinée cet après-midi en finale du tournoi WT à Danger. Elle a été battue 7-6, 3-6, 6-0 par l'américaine Alicia Parks après 2h22 de lutte. La Suissesse pourra toutefois se consoler avec une progression impressionnante au classement mondial. Son parcours à Angers lui permet de gagner près de 430 rangs dans la hiérarchie. Et puis Lando Norris finit en beauté. Le pilote britannique s'est offert le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi cet après-midi. La dernière course de la saison, il a devancé les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc. Lando Norris offre ainsi à son écurie McLaren le titre constructeur pour la première fois depuis 26 ans.